Bonjour et bienvenue sur Parc FM. Aujourd'hui, on accueille Monsieur Rupert, un docteur en sociologie. Bonjour Monsieur Rupert.
Bonjour.
On est aussi avec deux camarades, Jean-Gabriel et Benoît.
Bonjour à tous. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue effectivement sur cette émission de Bac FM, dans le cadre justement aussi de l'atelier Sciences Po, parce que effectivement nous sommes trois élèves dans le dispositif de l'atelier Sciences Po. Et donc, nous souhaitons vous partager notre expérience, aussi à vous également, sur cette interview de Monsieur Rupert.
Alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Oui, donc je m'appelle Nouri Rupert, je suis chargé de mission au Pôle Égalité des Chances de Sciences Po. Donc le Pôle Égalité des Chances de Sciences Po a pour objectif d'accompagner les lycées partenaires de notre école à pouvoir faire en sorte que les élèves s'entraînent, travaillent un certain nombre de compétences, des compétences linguistiques, socio-comportementales et des compétences rédactionnelles pour ensuite entrer à Sciences Po ou dans l'enseignement supérieur. Mais la raison de ma présence ici concerne donc des travaux que j'ai pu effectuer par le passé sur les questions de genre et théorie féministe.
Alors j'ai une question purement personnelle. Pourquoi vous avez décidé d'étudier la sociologie ? C'est un domaine qui n'attire pas grand monde.
Alors j'ai décidé d'étudier la sociologie parce que je suis issu d'une famille, donc une ancienne professeure qui est devenue conseillère d'orientation et puis d'un père ingénieur qui a eu des responsabilités syndicales. Donc j'ai grandi avec l'actualité, j'ai grandi avec les mouvements sociaux et j'ai étudié notamment les questions de genre puisque je suis originaire de Vitry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine c'était le début de la marche des femmes contre l'égalité. Avec le mouvement Ni pute ni soumise, puisque malheureusement il y a eu l'assassinat d'une jeune femme brûlée vive dans un quartier populaire de Vitry. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai pris conscience qu'il y avait une vraie inégalité de traitement entre les hommes et les femmes.
Je sais que vous avez fait un doctorat qui porte sur la question du mariage au Maroc. Et justement, je voulais savoir au Maroc comment la question du genre est-elle perçue ?
Alors, ma thèse de doctorat a porté sur, effectivement, les questions des mariages et des divorces au Maroc, mais en France également, de Françaises d'origine marocaine. Et pour répondre à votre question, il y a eu une grande avancée depuis 2004, avec la réforme du Code de la famille au Maroc, à la fois pour des questions conjugales, mais aussi par des questions de dissolution des liens conjugaux. Les divorces ne font plus peur. Les femmes peuvent divorcer librement, sans le consentement de la famille, sans un tuteur matrimonial, que ce soit pour les mariés ou pour l'accord de divorce. Donc pour répondre à votre question, la question de genre au Maroc avance très vite. Elle a effectivement eu quelques dissensions et quelques tensions au départ lorsqu'il y a eu ce projet de loi en 2004, mais aujourd'hui les choses semblent être apaisées.
Et donc vous venez de donner une conférence à l'instant sur les théories féministes et le rapport de genre. Qu'est-ce que le genre et qu'est-ce que le féminisme ?
Alors, le genre, pour aller très vite, c'est l'étude du féminin et du masculin, et c'est l'étude de la construction sociale des sexes. On va étudier la manière avec laquelle le substrat biologique implique justement une catégorisation soit masculine, soit féminine, avec des attendus différents entre les sexes. Et la question sur effectivement, les questions féministes ne sont pas des questions de genre, mais les questions féministes appuient, irriguent la connaissance des théories genre, puisque le féminisme a pour objet principal d'étudier les intérêts, la vie et les intérêts sociaux et politiques des femmes. Donc c'est la vie et les intérêts des femmes qui va irriguer en fait la connaissance en études sur le genre.
Et comment vous comprenez la non-binarité dans une société où cette identité de genre est très mal perçue ? Très mal comprise.
Alors la non-binarité a émergé depuis une dizaine d'années dans le milieu militant. Donc ce sont vraiment des militantes et des militants des mouvements pour le droit à ne se reconnaître comme ni homme ni femme qui a émergé, qui commence aujourd'hui aussi grâce aux réseaux sociaux à pouvoir arriver jusqu'à vous. Donc la non-binarité, je la comprends comme une volonté de sortir de la bicatégorisation dans laquelle nous sommes forcés d'évoluer à notre naissance.
Très bien, et donc j'avais également une autre question de ma part, parce que vous avez parlé durant cette conférence de la transition sexuelle, et je voulais vous demander, que pensez-vous de la transition sexuelle pour les personnes de très jeune âge, notamment les adolescents qui sont presque à la majorité, parce que bah, effectivement, que ce soit biologique, puis même en fait juste à l'état civil pur, cela entraîne de nombreux enjeux, je pense que vous êtes du même avis que nous, et donc... Pensez-vous que ça peut être un certain danger aussi pour ces personnes parce que bah, ça implique souvent de grandes responsabilités et c'est, je pense, pour ces personnes très difficile de faire marche arrière. Donc, que pensez-vous de cela ?
J'aimerais rajouter juste avant une petite question. Pensez-vous qu'il y a un âge idéal pour pouvoir entamer une transition ?
Alors, encore une fois, la transition, il y a une transition qui va impliquer des changements corporels et une transition qui va impliquer l'absence de transition corporelle. Et je pense qu'il faut vraiment le comprendre comme ça. C'est-à-dire que la question transgenre n'implique pas obligatoirement une modification corporelle. Donc, pour répondre à votre question là-dessus, je ne pense pas qu'il y ait un âge précis ou minimum pour engager une transition, simplement parce que la transition peut être une transition de valeur, beaucoup plus que des transitions biologiques et sexuées.
D'accord.
Et donc, je reviens au féminisme. On entend très souvent sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours des stéréotypes autour de ce mouvement. Est-ce que, selon vous, ces stéréotypes décrédibilisent ce mouvement ?
Alors, ils le décrédibilisent, oui, forcément, d'une certaine manière. Mais il faut aussi voir ce qu'il y a de l'autre côté, entre guillemets. Vous savez que le fonctionnement des réseaux sociaux a ceci de particulier que vous ajoutez les amis des amis. Et donc finalement, vous êtes face à des personnes qui pensent comme vous. Donc celles et ceux qui sont hostiles à ces questions de transgenre vont être finalement amis entre eux. Donc vont croire qu'une communauté est importante sans voir ce qu'il y a en face. Donc ça décrédibilise, oui, parce que la manière avec laquelle les médias s'emparent du sujet a plutôt tendance à orienter le débat d'un côté ou d'un autre. Mais de l'autre côté, il y a toute une organisation qui est forte, que ces anti-transgenres ne voit pas. Donc il y a une organisation qui s'installe et qui avance petit à petit et qui obtient des victoires législatives.
Très bien, et donc j'avais également une autre question. Donc oui, durant cette conférence, vous aviez parlé de nombreux thèmes, et notamment le féminisme. Et donc maintenant, dans l'actualité, puis notamment aussi quelques temps avant, nous avons pu aussi constater dans l'opinion publique des mouvements de féminisme extrême, comme on peut appeler ça dans l'opinion publique. Et vous, qu'en pensez-vous de ce mouvement d'extrême féminisme actuellement ?
Alors vous pensez à quoi ? Et vous pensez à qui quand vous parlez d'extrême féminisme ?
Ça peut être plus les personnes, du moins les femmes, qui essaient de remplacer le patriarcat par le matriarcat.
Alors est-ce que vous pensez, effectivement je réponds par une question, mais est-ce que vous pensez qu'on y est à ce matriarcat ?
Ah non, on n'y est pas du tout, moi je pense pas... qu'on y soit encore arrivé. On n'est déjà pas dans une égalité totale entre les hommes et les femmes, c'est pas pour que le matriarcat soit plus présent.
Alors pour répondre à votre question, le procès en matriarcat répond d'une crainte et d'une peur collective. Simplement parce que cette peur collective, elle est nourrie par des privilèges dont les hommes hétérosexuels ont joui depuis des années. C'est simplement le réveil et l'éveil à la différence et à l'égalité qui crée, chez des groupes antiféministes d'ailleurs, une peur collective. Et cette peur collective créée par des groupes antiféministes apparaît dans le débat public comme étant quelque chose d'un féminisme extrême qui serait là pour changer absolument l'organisation sociale. Mais la base du problème, c'est pas tellement l'extrémisme du féministe, c'est davantage la perte de privilèges d'un groupe social par rapport à un autre.
Et donc, pendant la conférence, vous avez parlé du féminisme intersectionnel et postcolonial. Vous me direz si j'ai mal interprété vos mots, mais selon vous, les femmes et leurs aspirations changent en fonction de leur couleur, leur pays d'origine ?
Alors, au-delà de l'aspiration, c'est des contextes qui sont différents. L'apport, en fait, des féminismes de couleur et des féminismes postcoloniales, il y a deux apports différents. L'apport des féminismes de couleur, c'est de montrer la multiplicité des groupes de femmes. La multiplicité des groupes de femmes pour les féministes de couleur et des féministes postcoloniales, c'est la multiplicité d'origine de la production du savoir et donc des contextes différents.
Et est-ce que pour vous, la différence de force physique joue un rôle dans la hiérarchisation des genres?
Alors, idéalement, ça devrait être non. Et je pense que l'apport de la technique fait en sorte que ça soit non. Par contre, il y a des espaces, et le sport en fait partie, dans lesquels on va essayer de figer ces idées selon lesquelles la force physique définit des parcours sportifs et de réussite.
Justement, pour revenir sur cette question de sport, on sait que les femmes transgenres ont été supprimées des compétitions féminines. On peut se demander si, du coup, une femme transgenre peut vraiment renier son passé et ne plus en parler, et devenir réellement, du coup, maintenant, une femme sans plus que personne ne parle de son sexe avant.
Alors, renier son passé, on doit aussi le relier au fait que le passé là, lui préexiste. C'est-à-dire que cette femme, entre guillemets, elle existe en tant que femme transgenre parce que l'organisation sociale dans laquelle on est la catégorise comme telle. L'objectif, ça serait de passer à des catégories de vitesse, de temps, pour l'athlétisme, plutôt que des catégories de genre, comme ça existe déjà pour des catégories de poids. On pourrait prendre le modèle du judo et des arts martiaux d'une manière générale, casser l'idée selon laquelle il y a des compétitions de femmes et d'hommes, et ne retenir que des catégories de poids ou de temps, ce qui permettrait d'avoir des compétitions sportives totalement inclusives.
D'accord.
Est-ce que la perception de genre est différente selon les catégories sociales? Est-ce qu'il y a une catégorie sociale où les avis sont plutôt tranchés?
Alors, je ne suis pas sûr que ça soit absolument ce cas-là. Par contre, il y a des attentes de genre en fonction des classes sociales. Effectivement, il y a des attentes de corporéité, de maintien du corps, de posture, de parole, de façon de se tenir, de parler, qui varie en fonction des classes sociales.
Très bien, et donc moi j'avais une question. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a une inégalité des chances selon où sont les genres en France, que ce soit dans le milieu scolaire ou notamment professionnel, où on peut entendre parler notamment du plafond de verre? Vous en pensez quoi de ça?
Alors il y a un plafond de verre, mais il y a surtout une autocensure, plus qu'un plafond de verre. C'est-à-dire que je propose plutôt de passer du plafond de verre à l'autocensure. C'est-à-dire qu'on va davantage éduquer les jeunes filles à être dans des espaces domestiques et à de poursuivre une carrière professionnelle en lien avec la carrière domestique. Donc, plus qu'un plafond de verre, c'est une autocensure qui est construite dès le départ et dès les espaces, les premiers espaces de socialisation, qui vont permettre ou desservir aux femmes d'évoluer dans des espaces de continuité. Il y a un continuum entre la domesticité et l'aspect professionnel dans un espace de santé, de soins aux autres, tandis qu'on va orienter les hommes davantage vers de la science et de la technique.
Très bien, et donc si vous rencontriez, imaginons, un représentant d'un autre pays, hein, donc vous êtes un représentant politique, notamment, imaginons que vous êtes un président français, où justement il y a une forte inégalité de genre dans ce pays, vous êtes en entretien avec ce dirigeant, qu'est-ce que vous lui diriez pour défendre justement votre point de vue sur l'égalité des genres qu'on pourrait avoir en France? Comment vous le convaincriez qu'il faudrait avoir une ouverture d'esprit sur ces sujets-là?
Alors, c'est une question qui est très intéressante, parce que c'est quand même difficile d'arriver, justement, le sens de la conférence, c'était de déconstruire les préjugés et les savoirs, et surtout d'apprendre à avoir une certaine humilité. Donc l'humilité, ça veut dire simplement de ne pas arriver avec notre modèle franco-français, parce que le modèle franco-français, il a des atouts, mais il a aussi des inconvénients. Si on regarde le nombre de féminicides en France actuellement, j'aurais du mal à venir donner des leçons à un autre dirigeant politique ou une autre dirigeante politique, quand on voit qu'en France, on a encore du mal à aider les femmes à ne pas tomber dans ce genre de crime, à être victimes de ces crimes-là. Aujourd'hui, j'aurais quand même du mal à leur donner des leçons. Après, on peut faire un inventaire de ce qui marche en France et de ce qui marche moins bien ailleurs, mais il faudra aussi faire un inventaire de ce qui marche pas bien en France et pour pouvoir échanger avec le dirigeant politique. Donc en fait, je réponds à la question sans y répondre, mais je pense qu'avant de pouvoir donner des conseils à mon homologue, il faut aussi que je puisse voir ce qui ne marche pas en France, et les crimes contre les femmes en sont un très bel exemple de marge de progression en termes d'égalité de genre en France.
Alors justement, on entend très souvent parler d'une évolution dans le bon sens, une évolution positive de l'égalité des genres. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Alors oui, il y a quand même des évolutions positives. Les femmes peuvent aller à l'école, les femmes peuvent voter, les femmes peuvent ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari. elles peuvent divorcer sans tuteur. Donc, clairement, y a une évolution. On a parlé tout à l'heure de l'accès à la contraception. Il y a aussi l'accès aux études supérieures. Il y a l'accès aux grandes études, d'une manière générale, aux grandes écoles, aux études longues, là où on attendait que les femmes travaillent assez tôt. Donc, vous voyez, il y a une ouverture post-bac qui se fait, une ouverture post-bac qui se fait de façon de plus en plus longue et qui permet aux femmes d'aspirer à des carrières professionnelles dont elles ont envie et pas forcément ce qu'on attend d'elles. Donc, je crois effectivement, pour répondre à votre question, que la question de genre évolue favorablement en France si on prend un contexte particulier par rapport aux années 50. On a clairement évolué. Et comme j'ai dit précédemment, en fait, il y a aussi il y a des défis. Et la question de la violence faite aux femmes est un défi énorme.
D'accord. Tout à l'heure, on a parlé du coup du monde professionnel avec l'égalité des genres. Êtes-vous du coup pour les CV anonymes ?
Oui. Oui, je suis favorable aux CV anonymes pour la simple et bonne raison de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, pour éviter les biais de genre.
Mais du coup, vous avez aussi dit pendant la conférence que des métiers étaient plus prêtés aux femmes qu'aux hommes. Donc, est-ce que par rapport aux expériences, on ne pourrait pas avoir une idée, savoir si c'est un homme ou une femme derrière ce CV, même s'il n'y a pas de nom ?
De toute façon, merci pour cette question, parce que de toute façon, en entretien, en situation d'entretien, je ne pourrais pas éviter au recruteur ou à la recruteuse de considérer que l'individu que j'ai en face de moi est un homme ou une femme.
D'accord.
Donc, ce que je vous avais expliqué, c'est effectivement qu'il y a une orientation sexuée des professions. On oriente davantage les femmes vers des métiers liés au care, à la santé, et les hommes vers des métiers techniques et scientifiques. Le CV anonyme permettrait de passer une première barrière, si vous me permettez l'expression. Après, effectivement, restera la question de l'entretien de visu.
D'accord.
Tout à l'heure, vous aviez dit que vous travaillez aussi à Sciences Po. Comment se traduit la question de rapport de genre à Sciences Po ? Et comment cette question est perçue et prise en charge dans cette école ?
Alors, il y a une très grande politique en faveur de l'égalité homme-femme à Sciences Po. Notamment, je vous l'ai dit, on arrive à de plus en plus avoir féminisé l'accès aux grandes écoles et aux sciences humaines et sociales exigeantes. Donc, on a 70% de candidates et 70% d'admises. Donc, là, on est dans une très belle surreprésentation de l'égalité, puisque les femmes sont majoritaires par rapport aux étudiants de Sciences Po. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, Sciences Po n'est pas aveugle aux problèmes sociaux qui entourent l'école, et notamment les violences sexistes et sexuelles. C'est la raison pour laquelle Sciences Po a lancé un très grand plan d'accompagnement des femmes en externalisant la requête des plaintes, en mettant une ligne aussi anonyme pour pouvoir témoigner de l'existence de violences. Et puis le process d'accompagnement des victimes est externalisé, donc il ne revient pas à des personnels de Sciences Po. Sciences Po y est très attaché et renforcera ce plan et ses actions dans le temps à venir.
Pour finir, j'avais une dernière question. Qu'avez-vous fait pour aider les personnes qui ont des questions sur le genre ? Et que pouvez-vous conseiller aux jeunes qui écouteront la radio pour pouvoir mieux aiguiller les personnes qui ont des questions ?
Alors Sciences Po a mis en place un certificat qui est porté par son programme de recherche sur le genre, qui permet de certifier d'avoir suivi des cours sur le genre tout au long de leur scolarité à Sciences Po. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quel conseil je pourrais donner à des adolescents sur les questions de genre ? C'est bien ça, votre question ?
Oui, oui.
D'être eux-mêmes, de se documenter le plus tôt possible. Comme on l'a vu ensemble, la socialisation commence très très tôt. Donc, de pouvoir donner accès à de la documentation de plus en plus tôt et à donner accès à des représentations différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans l'espace familial. Parce que c'est aussi là que ça se joue. Ces enfants sont certes dans un espace familial, mais arrivent dans un espace étudiantin et écolier lorsqu'ils sont au lycée, puis au collège, au lycée et à la fac. Et ils doivent pouvoir continuer à avoir accès à ces schèmes de pensée et d'action différentes.
D'accord.
Très
Très bien, donc j'avais moi aussi une dernière question, et donc pour cette dernière question, je vais m'orienter sur le sujet politique. Que pensez-vous justement de l'hétérogénéité, de la proportion des hommes et des femmes dans la haute fonction publique, que ce soit notamment à l'Assemblée nationale ou dans le gouvernement ?
Alors dans le gouvernement, il me semble qu'il y a une parité homme-femme. Il me semble également que la dernière représentation liée aux élections législatives ont permis de faire rentrer énormément de femmes. Donc, oui. Vraiment, je suis extrêmement favorable à cette dynamique. Et cette dynamique, elle passe aussi par vous, puisque vous vous emparez des questions politiques, sociales et économiques le plus tôt possible. Et il faut être en capacité d'embarquer les femmes avec vous dans les enjeux politiques. Il y a peut-être une marge de progression malgré tout. C'est de pouvoir mettre des femmes en position éligible lorsqu'elles sont sur des listes électorales.
Très bien, parce que oui, effectivement, c'est quand même important, je pense, de discuter sur ce sujet, parce que, bah, effectivement, il y a encore une certaine hétérogénéité, mais qui est beaucoup moins prononcée qu'auparavant. Donc, effectivement, comme vous l'aviez dit, on a quand même une certaine avancée en France. Justement, moi, je suis d'accord sur votre point de vue, justement, du fait que placer les femmes sur une certaine éligibilité est fortement important. Oui.
Merci, monsieur Rupert, Benoît et Jean-Gabriel, et merci de nous avoir écoutés. Sur Bac FM.
Au revoir.
Au revoir.